Bonjour, ici Marc, bienvenue à l'épisode 92 du bonheurpourtous.info, le podcast où je partage avec vous les meilleures informations que je trouve pour reprendre contact avec notre vraie nature, le bonheur. Aujourd'hui, la fin de la troisième partie du livre de l'Arc and Rose, La superstition la plus dangereuse. Si vous venez de découvrir le podcast, ce livre aide à se défaire de l'endoctrinement qu'on reçoit qui nous maintient en esclavage sans qu'on s'en aperçoive. Oui, en esclavage, je n'exagère pas. Le début du livre est à l'épisode 50. Voici le chapitre d'aujourd'hui. Un mélange de sagesse et de folie. À la fin du XVIIIe siècle, un événement très inhabituel s'est produit, un événement qui semblait pouvoir briser le cycle perpétuel des tyrans en série. Cet événement a été la signature de la Déclaration d'indépendance. Ce qui a rendu cet événement inhabituel, ce n'est pas que le peuple se soit rebellé contre un tyran, ce qui s'était produit d'innombrables fois auparavant, mais que les rebelles aient exprimé des principes philosophiques de base, rejetant non seulement un régime particulier, mais aussi l'oppression dans son principe. Presque. La Déclaration d'indépendance et la Constitution qui l'a suivie quelques années plus tard sont une combinaison de profondes intuitions et de contradictions flagrantes. En même temps, la Déclaration d'indépendance affirme à tort que le gouvernement peut avoir un rôle légitime dans la société, celui de protéger les droits des individus. Comme nous l'avons expliqué plus haut, une organisation qui ne ferait rien d'autre que de défendre les droits individuels ne serait pas un gouvernement au sens où on l'entend. La Déclaration parle également de droits inaliénables et affirme que « tous les hommes sont créés égaux » en ce qui concerne leurs droits. Mais les auteurs n'ont pas réalisé que de tels concepts excluent totalement la possibilité d'une classe dirigeante légitime, même très limitée. Les principes mêmes qu'ils ont exprimés ont été immédiatement contredits par leurs efforts pour créer un gouvernement protecteur. Un jour, il déclarait que « tous les hommes sont créés égaux », déclaration d'indépendance, et le lendemain, il déclarait que certains hommes, s'appelant eux-mêmes Congrès, avaient le droit de voler, taxer, tous les autres. Constitution des États-Unis, article 1, section 8, clause 1. La Révolution américaine est le résultat d'un amalgame d'idées contradictoires, certaines soutenant la souveraineté individuelle, d'autres une classe dirigeante. La Déclaration affirme que lorsqu'un gouvernement devient destructeur des droits individuels, ce qui est toujours le cas de tout gouvernement dès qu'il existe, le peuple a le devoir de le modifier ou de l'abolir. Pourtant, la Constitution prétend donner au Congrès le pouvoir de supprimer les insurrections. Constitution des États-Unis, article 1, section 8, clause 15. Cela implique que le peuple a le droit de résister à l'oppression du gouvernement, mais que le gouvernement a le droit de l'écraser violemment lorsqu'il le fait. En bref, les travaux des pères fondateurs sont un mélange de sagesse profonde et de folie totale. À certains endroits, ils décrivent très bien le concept de propriété individuelle. À d'autres, ils cherchent à créer une classe dirigeante. Ils n'ont pas semblé remarquer que ces deux agendas sont totalement incompatibles l'un avec l'autre. Le résultat de leurs efforts a été, dans un sens, un gigantesque échec. Le régime qu'ils ont créé s'est développé bien au-delà de ce que les fédéralistes et les antifédéralistes avaient déclaré vouloir. La Déclaration et la Constitution ont totalement échoué à limiter le pouvoir du gouvernement. La promesse d'un gouvernement qui serait au service du peuple, protégeant ses droits mais le laissant en paix, s'est transformé en l'empire autoritaire le plus vaste et le plus puissant que le monde ait jamais connu, comprenant le racket d'extorsion le plus vaste et le plus intrusif jamais connu, la machine de guerre la plus vaste et la plus puissante de l'histoire, et la bureaucratie la plus intrusive et la plus envahissante de l'histoire. En vérité, l'idée était vouée à l'échec dès le départ. La chose la plus précieuse que la grande expérience américaine est accompli, a peut-être été de démontrer qu'un gouvernement limité est impossible. Il ne peut y avoir de maître qui rend des comptes à ses esclaves. Il ne peut y avoir de seigneur qui serve ses sujets. Il ne peut y avoir de souverain qui soit à la fois au-dessus du peuple et subordonné à lui. Malheureusement, nombreux sont ceux qui refusent encore d'apprendre cette leçon, insistant au contraire que la Constitution n'a pas échoué, mais c'est le peuple qui a échoué, en ne faisant pas les choses correctement, en n'étant pas assez vigilant, ou par toute autre négligence ou corruption. Curieusement, c'est la même excuse que donnent les communistes pour expliquer pourquoi leur philosophie défectueuse, lorsqu'elle est mise en pratique dans le monde réel, se transforme toujours en oppression violente. La vérité est que toute forme de contrôle autoritaire, tout type de gouvernement, qu'il soit constitutionnel, démocratique, socialiste, fasciste ou autre, aboutira à l'oppression forcée d'un groupe d'esclaves par un groupe de maîtres. C'est ce que l'autorité est, et tout ce qu'elle a toujours été, et tout ce qu'elle pourra jamais être, peu importe le nombre de couches d'euphémismes et de belles rhétoriques utilisées pour tenter de le dissimuler. Le mythe du contrat. La mythologie qui entoure la Constitution prétend qu'elle a servi de sorte de contrat entre le peuple en général et ses nouveaux serviteurs au Congrès. Mais il n'y a pas l'ombre d'une vérité à cela. On ne peut pas, en signant un contrat, lier quelqu'un d'autre à un accord. L'idée que quelques douzaines de propriétaires terriens blancs, masculins et riches puissent conclure un accord au nom de plus de 2 millions d'autres personnes est absurde, mais l'absurdité ne s'arrête pas là. Aucun contrat ne peut jamais créer un droit détenu par aucun des participants, ce que toutes les constitutions gouvernementales prétendent faire. La forme du document montre clairement qu'il ne s'agit pas d'un véritable contrat, mais d'une tentative de fabriquer de toutes pièces le droit de gouverner, aussi limité qu'il soit censé être. Un accord contractuel réel est une chose fondamentalement différente de tout document visant à créer un gouvernement. Par exemple, si un millier de colons américains avaient signé un accord disant « Nous acceptons de donner un dixième de tout ce que nous produisons en échange des services de protection de la compagnie de protection George Washington », il pourrait être moralement lié par un tel accord. Passer un accord et le violer est une forme de vol, un peu comme aller dans un magasin et prendre quelque chose sans le payer. Mais il ne pouvait pas lier quelqu'un d'autre à l'accord, ni utiliser cet accord pour donner à la compagnie de protection George Washington le droit de commencer à voler ou à contraindre des personnes qui n'avaient rien à voir avec le contrat. En outre, bien que la Constitution prétende autoriser le Congrès à faire diverses choses, elle ne l'oblige en fait à rien. Et qui, en possession de tous ses moyens, signerait un contrat qui n'obligerait pas l'autre partie à faire quoi que ce soit? Dans l'affaire Duchesne contre Winnebago, 489 US 189, même la Cour suprême des États-Unis a officiellement déclaré que le gouvernement n'a pas l'obligation réelle de protéger le public. Le résultat est que la Constitution, au lieu d'être un contrat brillant, utile et valide, était une tentative insensée d'une poignée d'hommes de soumettre unilatéralement des millions d'autres personnes au contrôle d'une machine d'agression, en échange d'aucune garantie de quoi que ce soit. Le fait que des millions de constitutionnalistes tentent désespérément d'y revenir, dans l'espoir de sauver leur pays, si le peuple essaie à nouveau, après avoir complètement échoué lors de la première tentative, témoigne de la puissance et de la folie de la superstition de l'autorité. Voilà, c'était l'épisode d'aujourd'hui. Laissez un commentaire sur iTunes, s'il vous plaît, ou là où vous préférez, si vous aussi, vous voulez que ce dont on parle ici arrive aux oreilles de plus de monde, car ça rend le podcast plus visible et donc ça aide les gens à trouver ces informations plus facilement. Sur bonheurpourtous.info, il y a un lien qui vous amène au podcast dans iTunes. À l'épisode prochain, avec le début de la quatrième partie de La superstition la plus dangereuse, la vie sans superstition.